Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. Aujourd'hui, en cette saison automnale qui commence, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu particulier que j'ai intitulé « Contes et récits de la soupière et du potager ». Mais pas n'importe quel potager, celui à tenir les plats au chaud. Il ne s'agit pas du jardin, il s'agit d'une annexe de la cuisine, à côté de la cheminée. Alors, cette saison est celle des cuzzos, des cugurdos, des castaños et du biburrut, c'est-à-dire des citrouilles, des potirons, des courges, des châtaignes et du vin nouveau. On pourrait l'intituler « Depuis les vendanges jusqu'au dépouillage du maïs, dala y bendemios capala despelucado ». Alors les citrouilles, en ce temps d'automne et de cuisine des pays d'oc à la flambée du cantou, qui nous permettent de s'imprégner de l'esprit de l'automne, les citrouilles, alors que l'automne de nos bois a jonché la terre, les citrouilles jouent un rôle dans l'imaginaire des carcinoles, des carcinois, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et c'est dans le recueil de contes, recueilli par l'abbé Calvette, originaire de Castelnau-Montratier, qui a fini sa carrière recteur de l'Institut catholique de Paris. Il a vécu de 1874 à 1965, et il situe ses contes en Kersiblan, l'oupage des Carci Albenc. Et ces contes ont été restitués en leur forme occitane d'origine, la forme carcinole, par l'abbé Jules Cubain, qui est né en 1894 à l'Albenc et qui est mort curé de Concos en 1975. Et le recueil mis en forme occitane porte le titre de « Contes de la Vieille France », Contes de la Vieille France. Et un de ces contes, intitulé « Los quatre auvergnols », les quatre auvergnats, nous permet de percevoir, à partir de l'analyse, de la déconstruction du conte, des thèmes clés majeurs qui nous restituent un vieux mythe antérieur, lui-même écho en voie d'oubli, de, je dirais, un système institutionnel propre à des sociétés disparues. Au fond, le processus va depuis le système de penser le monde et la société de peuples anciens, se synthétise et se maintient à la mémoire sous forme de mythe, qui ensuite se dégrade, pourrait-on penser, en conte. Alors, les spécialistes de la chose ne sont pas d'accord avec cette vision, qui est une vision assez simplifiée, mais elle permet au grand public de mieux comprendre. Alors, par exemple, on vous dira que le conte du petit poucet est le dégradé d'un mythe organisateur de la société dans lequel l'héritage passait au Benjamin et les enfants, les sept garçons du conte, étaient astreints à vivre des périodes initiatiques en pleine nature sauvage où ils affrontaient des épreuves qu'ils devaient surmonter pour devenir des adultes accomplis. Vous avez un autre exemple, c'est celui du fameux mythe d'Édipe en Grèce ancienne qui nous restitue un état de la société que l'on connaît par les études qui ont été faites des origines de Rome, l'époque des sept rois fondateurs. Il semble bien que dans ce type de société, c'est le cas en Grèce ancienne avec Édipe, le pouvoir était, le principe même du pouvoir, la jouissance du pouvoir était détenue par les femmes. Mais le pouvoir était exercé par les hommes. Quand une reine, entre guillemets, avait une fille, se présentait un candidat pour accéder au trône. Ce candidat devait affronter le roi en titre, le mari de la reine, le vaincre, le tuer et prendre sa place en épousant la fille, voire même la veuve. C'est le cœur secret du mythe d'Édipe. On retrouve cela dans d'autres contes, tels que les contes de Grimm, par exemple, où on voit très bien apparaître sous l'écorce du conte la réalité du mythe, qui elle-même recouvre une organisation de la société complètement oubliée et disparue. Alors, en Quercy, nous avons, à travers le conte des quatre auvergnols, recueilli par l'abbé Calvette, semble-t-il, du côté de Trebaïs. C'est pas pour rien, parce qu'il cite la Caumuno. Et c'est en citant la Caumuno dans son récit que l'on peut comprendre ce qui doit se passer du côté de Trebaïs. Pourquoi? Parce que dans son autre conte, l'abbé Calvette, traduit en occitan par l'abbé Cubain, nous parle de la dernière sorcière de Trebaïs, la rei robruizzo de Trebaïs. Vous savez que Trebaïs, en Kersiblan, passait pour être un pays de sorciers. Et la dernière sorcière de Trebaïs, la Caumuno, la femme commune, si vous voulez, vivait dans une grotte d'écosse de Trebaïs, aménagée un peu comme celle des ascètes tantriques lamaïstes tibétains, et elle était accompagnée d'animaux tutélaires. Et lorsqu'elle a senti venir la mort, le maire de Trébaille et le curé ont essayé de la faire revenir à de meilleurs sentiments, mais elle a refusé. Et la citation de la Caumuno nous permet de comprendre que l'affaire des Catalans Berniols se passe du côté de Trébaïs. Alors, à travers ce conte organisateur du monde, de l'espace et de la société, on voit apparaître le rôle particulièrement important dans l'imaginaire des citrouilles. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que vient faire la citrouille dans l'imaginaire des Quercinois et dans la mythologie quercinoise? Surtout lorsqu'on sait que les citrouilles ne sont connues en pays d'Oc que depuis le XVIe siècle, après la découverte du Nouveau Monde et avec l'introduction en nos régions de légumes, de fruits et de fleurs tels que les tomates, les haricots à grains, les piments, le maïs, les pommes de terre, le tabac, les dahlias, les pétunias, qui ont retrouvé dans le bassin aquitain aux étés longs, chauds, ensoleillés, mais aussi pluvieux, et aux beaux automnes chauds et secs, les conditions de climat de l'Amérique centrale. Il semblerait que le massif central, l'Auvergne, ait tardé à connaître les citrouilles, que du moins, il les ait connues après le reste du bassin aquitain. Alors c'est d'autant plus curieux qu'on sait par les mosaïques gallo-romaines et par certaines œuvres de l'Antiquité, telles que l'apocolocentose de l'empereur Claude, c'est-à-dire l'apothéose de l'empereur Claude transformée en citrouille, on sait très bien que l'Antiquité méditerranéenne connaissait certaines formes de courges. Mais dans nos régions, le conte recueilli par l'abbé Calvé insiste là-dessus, c'est de la citrouille dont il s'agit. Alors, voilà de quoi il se passe. Si vous avez le recueil du conte sous la main, le nœud de l'affaire se situe entre le bas de la page 89 et le haut de la page 92, dans l'édition que j'ai, celle du Guy Saber, 1976, Toulouse. Alors, le nœud de l'affaire, le nœud du conte, nous met en scène des Auvergnats trompés par d'astucieux Quercinols, Quercinois, producteurs de citrouilles. Alors, Auvergnat se dit Auvergnol, Quercinol, c'est le Quercinois, bon, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce conte, on voit la citrouille devenir cheval, ou plutôt jument, et donner naissance à un poulain. En pays de Quercy, il semblerait que, dans l'imaginaire, les poulains naissent des citrouilles, bien mûres, et couvés comme des œufs. Alors ça, c'est une recette auvergnate, couvés comme des œufs au lit par la maîtresse de maison. On sait qu'en Auvergne, par exemple, pour faire réussir les couvées de poulets, de canards et de dindons, on les faisait couver au lit par une vieille grand-mère qui passait sa journée au lit. Alors, ce mythe des origines est un mythe organisateur du monde, devenu un conte drôlatique qui caractérise les Auvergnols, les Auvergnats, qui sont des montagnols, des gens de la montagne, ailleurs on dirait des gavaches, et on pourrait dire que les Quercinois se moquent des Auvergnats à travers leur fonction de réparateurs de chaudrons, marmites et tous objets en cuivre. On se trouve dans un pays de cosses, de falaises, de rocs, où les grottes furent encore vers 1920-1950 les lieux d'un sacré ancestral. Voir par exemple ce qui est la petite aventure arrivée au chanoine Lemosi à Cabreret, où il a découvert l'abri Murat, parce que tout simplement, devant cette grotte ornée, dont il ignorait l'existence, il avait vu des enfants prier régulièrement. N'oubliez pas que dans le pays de Montcuq, toutes les grottes du pays sont reliées mythiquement à la tour, par des souterrains, eux-mêmes en rapport avec des dolmens et menhirs. Donc on est dans un pays où les lieux des origines sont des grottes ornées, des grottes matricielles dont la citrouille reprend l'image, la figure. Aurait-on là affaire à un mythe du néolithique parvenu jusqu'à nous depuis l'époque des premiers paysans du Quercy? Le mythe repose donc sur la forme même de la citrouille, sa forme ronde, creuse à l'intérieur, qui évoque le giron maternel, qui évoque la grotte des origines. C'est le thème d'un ouvrage récent de Jean-Loïc Lequellec, La grotte ancestrale. Est-ce que cette citrouille riche en graines, dont l'intérieur est creux et d'où naissent une abondante progéniture, ne serait pas la figure dans laquelle se serait cristallisé un mythe des origines, mettant en scène, alors, la terre-mère, ici représentée par la maîtresse de l'oustal, la maîtresse de l'oustal, la maîtresse de famille, qui est chargée de couver au lit les œufs. Et en l'espèce, vous verrez de quoi il est question. Alors, les motifs clés du conte, ceux qui viennent d'un mythe de formation totalement oublié, mettent en scène donc l'Auvergne, pays de montagne, pays des hauteurs, habité de païens, de gens peu cultivés, on pourrait dire de barbares. Dans le pays de Montcuq, il portait le nom de Rulli, en latin, de Gourdou, en gaulois. Ça a donné le nom de Rouliac et le nom d'une famille de Montcuq au Moyen-Âge, les Gourdous de Montcuq. En Auvergne, quatre frères, infériorisés, exclus sociaux, parias répugnants par leur maladie de peau, par leur, on pourrait dire, leur stupidité native. Ces quatre frères, qui sont à peu près du même âge, sont des exclus parce qu'ils ont été refusés au service militaire, ce qui, au XIXe siècle, était la cause de déshonneur. Et ils ont la particularité d'être des spécialistes de la métallurgie du cuivre et du bronze. Ils reprennent donc des aspects de la fonction de maître des arts du feu et des arts du métal, que sont les forgerons, qui, souvent, pensés à l'Afrique, sont soit des exclus, soit des maîtres de la magie, soit les deux à la fois. D'où l'aspect négatif des forgerons, y compris dans nos régions. On a connu le cas à Montcuq avec l'ancien forgeron qui s'appelait, je crois, Bernard Borodon, et qui faisait très peur aux enfants du village, qui le prenaient presque pour un sorcier. Alors, le chaudron, la marmite, le chaudron, ça se dit l'upairol en occitan, ou la pairolo, la marmite, c'est l'ulo, ce sont des instruments de cuisine, des ustensiles, qui ont la même forme que la citrouille. Alors, les citrouilles ont la même forme que des chaudrons, que des marmites, que des houles, des pairols, des pairolos. Celles-ci sont negrasos, elles ont le cul noir, si on peut dire, mais elles contiennent la soupe au caldo, alors que la citrouille est un légume-fruit qui est froid et humide, donc qui est marqué par la dominance de deux éléments fondateurs de la nature, le froid et l'humide, qui s'opposent au chaud et au sec. La soupe chaude est à la fois chaude et humide, alors que la citrouille est froide et humide. Les instruments en cuivre ou en bronze sont des instruments du feu, donc qui joignent le chaud et le sec. On voit là apparaître les différentes façons de comprendre le monde. Alors, nos Auvergnats descendent en Quercy, où ils rencontrent l'opposition classique entre nomades et sédentaires. Mais en Quercy, ils font, disons, une petite fortune. Ils accumulent de l'argent, des pièces d'or, des pistoles. Mais cela ne leur arrive, cette fortune qu'ils recherchent en quittant leur Auvergne, ne leur arrive qu'après avoir vu des citrouilles mûres qu'ils croient d'abord être des campanos, des cloches d'église. Puis, trompés par un paysan carcinol, une patches carcinol, ils croient ces citrouilles être des œufs de jument à faire couver par la maestresso de l'hostal, la maîtresse de famille. Ou alors, en Quercy, nous dit le comte, par le grand soleilias del pais de Quercy, le grand et fort soleil du pays de Quercy. On s'aperçoit que, dans le comte, la maîtresse de famille, la dono de l'hostal, l'ustaliero, comme dit le comte, est l'équivalent du soleil de l'été. Donc le soleil est féminin. Ce qui est à mettre en rapport avec ce dont je vous parlerai tout à l'heure, le fameux dicton que nous cite le chanoine Sol dans son vieux Quercy, où lors de l'apparition du plus fin croissant de la nouvelle lune, les carcinols, du moins ceux d'entre eux qui connaissent la chose, saisissent des pierres qu'ils entrechoquent entre leurs mains en chantant à la lune qui vient d'apparaître dans le ciel, « Luno luno, papo luno, nostre segne te saludo. Luno luno, papo luno, nostre segne te saludo, la funteno marmiteno, la funteno marmitan. » La lune, nostre segne, notre Seigneur, le Christ, te salue. Luno luno, papo luno, père lune. La lune est une entité masculine. On replonge dans les plus lointaines strates de la mythologie du monde méditerranéen et européen. Pensez au fait que dans les langues germaniques, en allemand du moins, le soleil est féminin, la lune est masculine. Exactement comme dans ce conte où la maîtresse de famille qui couve les œufs ou les citrouilles, si on peut dire, joue le même rôle que le soleil pour faire mûrir les citrouilles. Inversement, dans les langues sémitiques, c'est la même chose. Le soleil est féminin, la lune est masculine. Alors, notre citrouille, aliment froid et humide, prend dans le conte la figure de la pleine lune. De cette citrouille pleine lune, naît un lièvre. En occitan, le lièvre, c'est féminin. Uno lebre. Or, le lièvre, c'est pas rien dans la mythologie occitane. C'est aussi la pleine lune de Mars. C'est l'équinoxe de printemps. Il faudrait reprendre le conte. Nos quatre Auvergnats sont en train de faire leur tournée sur les côtes du Quercy. Ils ont acheté, bon, moyennant travail en nature, ils ont acheté une grosse citrouille au paysan qu'ils ont rencontré, qui leur a fait prendre cette citrouille pour un œuf de jument. Et dans un tournant, cette citrouille leur échappe, elle roule le long du versant, éclate. Seulement, elle éclate contre une pierre derrière laquelle se trouvait un lièvre. Ils voient le lièvre détalé. Ils prennent le lièvre pour être un jeune poulet né de la citrouille. Et pour eux, donc, on voit apparaître à partir de ce petit détail une assimilation entre la lièvre de la pleine lune de Mars et un jeune poulain. Le poulain, c'est le jeune soleil du printemps, c'est le Bélénos, l'Apollon gaulois. On s'aperçoit donc qu'il y a là, dans ce récit que j'ai essayé de vous déconstruire, de vous analyser, beaucoup de motifs mythologiques qui sont en, comment dirais-je, enchevêtrés les uns dans les autres. À leur retour en Auvergne, nos quatre réparateurs d'objets en cuivre et en bronze sont accueillis en héros. Ils ont accompli un parcours initiatique et ils sont en quelque sorte devenus les héros du village. Ils ont triomphé des preuves initiatiques qui sont, dans le conte, dégradées, vulgarisées par le fait qu'ils doivent affronter les moqueries, les... En occitan, on dit là, itulufarios et itulufandisos. Les tromperies, pourrait-on dire, ironiques, des paysans du Quercy qui leur font croire que des citrouilles bien mûres sont des œufs de jument. Citrouilles bien mûres dont naissent des poulains. Alors, victorieux de ces épreuves et de ces obstacles, ayant accumulé un petit pécule, leur victoire sur les obstacles rencontrés révèle leur nature profonde, dissimulée sous les apparences de leur native stupidité et des maux physiques qui les excluaient. Ils étaient atteints de différentes maladies de peau qui en faisaient ce qu'on appelle par ailleurs des cagots. Alors l'un était le teigneux, l'autre le rogneux, le troisième le galeux, le dernier était un bon arien mais doté d'une voix de stentor. Par ces tares physiques qui les disqualifiaient, ils étaient des exclus sociaux. En d'autres pays, ils auraient pu être des sorciers, des chamans. En pays du sud-ouest de la France, des cagots. Les cagots, bien connus par toutes les petites œuvres publiées sur le sujet. Les cagots étaient des gens atteints de difformités physiques qui les excluaient de la société. On les connaît dans les régions d'habitat, isolés, comme les Pyrénées. Alors, on peut se demander de quelles institutions sociales disparues, mais connues sous forme de détails, de motifs clés constitutifs des mythes, ce conte contiendrait le souvenir. En fait, je me suis aperçu que ces Auvergnats accomplissaient un grand tour en Quercy d'Écosse, haut et bas Quercy, en Périgord et même aussi en Limousin et en Cantal d'Auvergne. Ça correspondait aux migrations saisonnières qu'accomplissaient les travailleurs depuis les hauts pays pauvres vers les bas pays riches. On voyait également, s'associer à cela, la mythologie du feu et de la forge en des pays qui ont constitué dans l'Antiquité l'ère de domination des Arvernes, des ancêtres gaulois des Auvergnats. Et selon des rapports culturels en général, ethnologiques, qui ont perduré dans l'espace et dans le temps, jusqu'au 7e siècle de notre ère, voire plus tard encore. Encore, on sait par les auteurs du 5e siècle et par la vie de Saint-Didier de Cahors que le Quercy, encore au 5e, 6e, 7e siècle, entretenait des rapports avec l'Auvergne. Et rapports de domination, si on peut dire, entre l'Auvergne dominait en quelque sorte le Quercy. Bon, après, nous allons attendre un peu quelques minutes pour entendre un peu de musique. Thank you. Nous reprenons avec, toujours dans cette étude, cette tentative d'analyse et de déconstruction du conte recueilli par l'abbé Calvé et traduit en occitan par l'abbé Cubain et qui se situe vraisemblablement dans les campagnes du Quercy blanc d'Écosse de Trébaïs. Il aurait fallu le lire, mais le conte est long. Il faut le lire en occitan, il faut donner la traduction, on n'aurait plus fini. Alors, ce conte évoque donc bien des systèmes de penser le monde. On appelle ça vulgairement des religions. Systèmes de pensée connus en Asie, notamment en Chine, en Afrique, où la calebasse, autrement dit notre citrouille, est une figure de la caverne des origines primordiales, des origines. C'est une image du giron maternel, matriciel et matricien d'André Chouraki dans sa traduction de la Bible et du Coran d'après l'hébreu et l'arabe. C'est une image de la grotte, d'où est sortie l'humanité. Thème connu chez les Incas et dans le Japon ancien, où le soleil naît d'une grotte. Chez les Incas, où l'humanité naît de deux jumeaux qui sortent d'une grotte. C'est aussi l'idée du giron matriciel et matricien d'où naissent tous les vivants. N'oubliez pas qu'en hébreu, les vivants, c'est les animaux. Alors, dans ce conte, on s'aperçoit que les Auvergnats ignorent ce que sont les citrouilles. Parce que les Auvergnats sont des gens de la montagne, des gabaches, on dit en occitan, des montagnols. Ce sont des non-civilisés. Ils ignorent donc les mythes des origines, organisateurs du monde et surtout mythes qui structurent la pensée, qui, par les mots employés, par les images qu'évoquent les mots, par les figures auxquelles ils se réfèrent, sont des textes, des récits qui font ressurgir dans notre mémoire les plus vieilles strates de la pensée et de la société humaine. Quand je vous dis que c'est le mythe, c'est un système de penser le monde qu'on appelle vulgairement des religions, ça me fait penser à l'expression qu'employait la Desplatoune au sujet du mythe de Saint-Jean le Froid, et où elle me disait que Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean pour elle, Saint-Jean, avait apporté aux gens de Lascabane, qui étaient des païens, des pacans, il leur avait apporté la vieille religion. Qu'était cette vieille religion? C'était un mythe explicatif du monde. Alors le conte, recueilli par l'abbé Calvé, qu'il a dû certainement contribuer à transformer légèrement, mais il a gardé les éléments structurants importants et primordiaux, il s'est pas rendu compte même de l'importance des détails qu'il citait. Ce conte est un reliquat métamorphosé d'un mythe des origines organisateur de l'univers. La citrouille, qui est une image de la grotte des origines, est aussi une image de l'univers. Dans ce conte, on s'aperçoit que pour les Quercinois anciens, à travers les questions que se posent les Auvergnats sur la nature profonde de ce que sont ces citrouilles, ils ignorent totalement de quoi il s'agit. Ils ignorent même le mot de cuzzo ou de cugurdo. C'est le paysan quercinois qui les trompe à ce sujet, qui leur apprend la chose. Et en échange, il accepte de leur céder une citrouille bien mûre, en leur demandant uniquement comme paiement de réparer les instruments, les ustensiles de cuisine de son épouse. Alors, on s'aperçoit que dans le conte, les cuzzos, les cugurdos, les citrouilles, sont assimilées à la pleine lune, la luna redondo, à des marmites, à des chaudrons, à des cloches d'église, et même à des fromages de Cantal. Et l'aboutissement de cette tentative d'identification, de cette pensée, c'est d'identifier les citrouilles à des œufs de jument, ios de caballo. Ça me faisait penser aux œufs de coq qui surgissent dans l'imaginaire à propos de la mythologie du serpent. Je vous disais dernièrement qu'on pensait que lorsque les serpents s'accouplent au mois de juin, de leur accouplement et de la fécondation d'un coq par un serpent naît un œuf, l'œuf de coq, qui est au fond l'œuf primordial d'où est né le monde. C'est la forme primitive de l'univers. Alors on retrouve cette façon de voir les choses à travers l'identification de la citrouille à des œufs de jument, dans différents thèmes locaux, mythologiques. Au boulve, ce sera le cheval éblouissant de lumière blanche qui surgit de la pierre d'un roc qui émerge sur l'Écosse en face de Ségos, cheval qui monte au zénith, au solstice d'été à midi. C'est tout simplement le Mars Esus gaulois, le Mars Esus Leucotiatos, éblouissant de lumière, dont le nom est aux origines même de l'Uzèche, à Cameirac. Et à Cameirac, ce sera Saint Pardulf. Pardulf, c'est-à-dire le cheval, pard, wolf, loup. Saint Pardulf, c'est le cheval loup qui aveugle les ennemis de la chrétienté, les sarrasins, par son éblouissante lumière. Au fond, Saint-Pardoux à Cambayrac reprend l'image même de l'Esus Mars et Leucotiatos, de l'Impernal et du Pêche de Luzèche. À Saint-Donès, ce sera au Pêche de Belliqui, le soleil en tant que loup beau. Et ce sera le cheval loup, le toujours même, le par de Wolf, de l'église Saint-Pierre-Olien de Saint-Donès, fêté le 1er août de Saint-Pierre-Olien. Alors on s'aperçoit finalement que dans cette vision, dans cette mythologie quercinoise qui apparaît à travers ce conte drôlatique qui met en scène des Auvergnats peu civilisés et qui ignorent ce que sont les citrouilles, ça montre un peu l'importance qu'avait la citrouille dans l'agriculture et le jardinage ancien de nos régions. C'était un légume fruit abondant, facile à cultiver. En faisant de la citrouille l'équivalent d'une jument aux origines du monde, ça nous montre plusieurs choses. Certes, le cheval, en tant que mâle, peut être assimilé au soleil, mais en Quercy, c'est l'inverse. C'est la jument qui est assimilée au soleil, alors que la pleine lune est masculine. On a donc là, si vous voulez, qui apparaissent confus dans l'imaginaire des Quercinois, différentes relations entre le monde et le temps. On voit que selon que l'on aborde la question, tantôt le soleil est mâle, tantôt il est féminin, tantôt c'est la lune, etc. On voit que là, si vous voulez, l'œuvre d'appauvrissement, de destruction, de désagrégation de la mythologie est en pleine opération. Le mythe est en pleine déperdition et les populations interrogées par les enquêteurs ethnologues qui étaient les curés de paroisse au XIXe siècle, pensez par exemple à l'œuvre de Jean-François Bladier en Gascogne. Jean-François Bladier était juge de paix à Lectoure. Les paysans interrogés quelquefois commettent des confusions. C'est à l'ethnologue d'essayer de tout remettre d'aplomb, ce qui n'est pas toujours facile. En tout cas, on s'aperçoit que dans ce conte, de jeune dieu mâle lorsque nouvelle lune, la lune devient jument gravide lorsqu'elle est pleine. Lorsque la citrouille éclate, il en naît un jeune poulain, qui est donc une entité mâle. Lorsque la citrouille est bien pleine et bien mûre, elle est assimilée à la lune, et elle est assimilée à une jument gravide. Il y a donc là, si vous voulez, on voit apparaître toute la mythologie des métamorphoses. Ces métamorphoses qui sont particulièrement connues dans la mythologie grecque, où on voit que certains personnages, mais on connaît ça aussi chez les Celtes, certains personnages, je pense à Orphée, Zalmoxis, l'enchanteur Merlin, peu importe, Pythagore même, prétendent avoir connu plusieurs métamorphoses, être passé par plusieurs états de vie, plusieurs états de vivant, avoir été transformé en animaux de différentes sortes, tantôt mâles, tantôt femelles. On retrouve donc l'enchanteur Merlin, Murdin, si vous voulez, en bon gallois, et il passait par différents états du vivant. Alors ces métamorphoses rendent compte de ce qu'étaient pour nos ancêtres les problèmes que leur posait l'engendrement, la génération, la mise au monde, tout ce qui est matriciel et matricien. La jument des origines fait naître une lièvre lunaire, femelle par nature, laquelle devient poulain, c'est-à-dire solaire, et mâle par ses fonctions. La pleine lune est assimilée à la citrouille mûre, qui donne naissance au lièvre de la pleine lune. Ce lièvre devient poulain, de poulain il devient cheval, c'est la phase décroissante de la lune. On pourrait là donc se pencher également sur la symbolique du cheval dans les grottes ornées du Paléolithique, ainsi que, par exemple à Lascaux ou à Pechmerle, où le cheval semblerait, d'après le roi Gourand, être marqué par l'aspect féminin de la nature. On s'aperçoit donc qu'à travers tous ces problèmes que pose ce simple conte, on voit apparaître toute la mythologie du vieux Quercy, celle qui tourne autour du cheval, de la lune, du poulain, du lièvre, de la citrouille, si on peut dire, introduite tardivement en Quercy. Ça prouve donc que la citrouille pourrait être la reprise d'un motif d'une figure plus ancienne. La citrouille ayant été introduite dans nos régions au XVIe siècle, on peut penser que, alors qu'elle est associée ici au cheval et au lièvre, qui sont beaucoup plus anciennes dans nos régions, on pourrait penser que la citrouille reprend une autre figure. Est-ce que la citrouille ne reprendrait pas la figure, la fonction, la nature de la calebasse d'alchimiste ? Elle en a les formes, elle en a les aspects, celle d'une cornue de distillation, d'obtention de l'élixir d'immortalité, la quintessence. Mais il y a plus étrange si on pense un peu aux sculptures du porche nord de la cathédrale de Cahors, où on voit dans la frise à le côté ouest, côté place devant la cathédrale, vous avez une frise qui nous montre une chasse dans une forêt de palmiers. On voit un cavalier, donc monté sur un cheval, qui poursuit un lièvre géant. Il est assisté de chiens. il se dirige vers le tympan, où les motifs clés nous montrent, nous révèlent un effort de calcul de la date du jugement dernier, de la fin des temps. Et ce tympan se creuse, en quelque sorte, est sculpté au fond du cube que forme le porche, cube marqué de fleurs étoiles en ligne verticale. Fleurs étoiles qui sont, dans la pensée du Proche-Orient ancien, le signe de divinité céleste. Mais, que voit-on apparaître également à travers ces fleurs étoiles? On retrouve ce que Georges de Peyreau a très bien étudié dans ses travaux sur les monnaies du Quercy, les monnaies anciennes, les Catourques, nos ancêtres Cadourques, si vous voulez, dont le nom veut dire les sangliers de combat, mais sangliers au sens de druide. Les Catourques avaient frappé leur monnaie d'un cheval, qui était lui-même encadré, accosté, de fleurs étoiles en forme de croix. Exactement les mêmes fleurs étoiles que sur le massif cubique du porche nord de la cathédrale de Cahors. Quand on sait que Cahors est la ville des chiens et des ours, que les chiens sont les héros promis à la mort jeune, mais à la mort glorieuse sur le champ de bataille, que les ours sont les cavaliers nobles dans la pensée gauloise, dans la pensée celtique, que le roi Arthur porte un nom qui fait de lui, Artos Turcos, l'ours sanglier, c'est-à-dire le cavalier noble qui est en même temps un druide, c'est pour ça qu'il est roi, qu'il guide une meute de chiens qui sont la figure des héros promis à une mort jeune mais glorieuse sur le champ de bataille, des Achilles celtiques si vous voulez. On peut se demander si la frise du porche nord de la cathédrale de Cahors, qui met en scène un lièvre géant, c'est-à-dire une lune, un cheval qui poursuit le lièvre, ne serait pas peut-être un autre aspect, plus ancien, médiéval, mais devenu incompréhensible de nos jours, d'un mythe dont on connaît par ailleurs une autre version dans les contes de la Biello Franzo de l'abbé Calvé et traduit par l'abbé Cubain, sous le titre de Louis IV à Auberniols. Aurait-on là, si vous voulez, un exemple même de ce qu'est le mythe qui se dégrade en conte, mais mythe qui est lui-même l'expression d'un état et d'une organisation de la société complètement oubliée et disparue. Voilà ce que je voulais essayer de vous dire aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que j'ai des problèmes de voix qui sont dus à certains phénomènes météorologiques de l'équinoxe d'automne. Alors, nous reverrons une autre fois. J'espère que ça ira nettement mieux. J'avais prévu aujourd'hui de vous parler de la cuisine d'automne autour des citrouilles et des châtaignes et compagnie, mais je n'ai pas le temps. Et ça demanderait un effort supplémentaire dont je suis bien incapable aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors d'ici là, essayez d'éviter de tomber malade.
Beau garçon jardinier, attendez-moi la belle, je vous y conduirai. Attendez-moi la belle, je vous y conduirai. L'a pris par sa main blanche, au jardin il l'a emmené à l'ombre du rosier.
donc pas la belle, je vous le rendrai. Pleurez donc pas la belle, je vous le rendrai. C'est pas une chose à rendre galant comme de l'argent prêté pour garçon jardinier.